à tous et à toutes. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission vous est proposée par Radio Campus Amiens, 87.7 FM, également disponible en DAB+. La semaine dernière, je suis allée à la rencontre de l'association Picardie Cosplay, qui organisait un défilé dans la galerie marchande d'un centre commercial.
Alors, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Alors moi je suis Yann, je suis le président de l'association Picardie Cosplay. Je l'ai fondée en 2017 par volonté de démocratiser le cosplay dans la région.
Est-ce que tu peux me dire les attractions de l'association et aussi combien il y a de bénévoles ?
On est 6 personnes au total actuellement dans l'association. Active. Parce qu'il y a eu des personnes qui étaient avant aussi, mais chacun fait ses choix, chacun a des choses à faire dans sa vie et du coup il y a des personnes qui ne sont plus forcément disponibles à l'heure actuelle.
D'accord. Et c'est quoi un peu la mission des bénévoles et toi ta mission en tant que président ?
Alors notre mission c'est d'épauler les cosplayers qui se sont inscrits pour les défilés ou les concours, de les accompagner et de les aider à se sentir bien, leur dire dans quel ordre ils passent, etc. Enfin, voilà, le but c'est vraiment qu'ils se sentent à l'aise pour effectuer leur... ce qu'il doit faire sur scène avec le plus de sérénité possible.
Est-ce que vous avez des costumes en votre possession dans l'association ou est-ce que ce sont les participants qui ont leurs costumes ? Comment ça se passe ?
Alors on a des costumes qui sont dans l'association, créés par les membres anciens ou nouveaux, que l'on expose généralement partout où nous trouvons. C'est essentiellement du Disney. Mais il y a également nos autres bénévoles qui sont en train d'explorer d'autres univers qui sont plutôt axés dans le manga. Donc ce qui fait grossir notre stock de cosplay que nous exposons dans les différents événements.
D'accord. De quoi il s'agit aujourd'hui ? C'est un défilé ?
Alors aujourd'hui, c'est uniquement un défilé, donc il n'y a pas de lot à gagner. C'est juste pour le plaisir de défiler, de pouvoir montrer des cosplays. Donc du coup, on peut également avoir des personnes jeunes ou amateurs qui pourraient avoir peur de faire une prestation sur scène ou de concevoir une bande-son, qui là, du coup, peuvent défiler librement, sans pression, sans enjeu. Voilà, la liberté est vraiment le centre de l'événement d'aujourd'hui. Voilà.
Vous organisez souvent des cosplays, comment ça se passe ?
Alors généralement, on organise autour de 3 concours par an, sur Amiens ou dans les alentours.
Le concours, justement, ça va consister, c'est un concours avec les personnes d'aujourd'hui ?
Alors, le défilé, aujourd'hui c'est un défilé.
Défilé, et du coup ?
La semaine prochaine, c'est un concours. Le 4 mai, c'est un concours, mais on aura des participants donc, qui ont fait le défilé aujourd'hui, et également des personnes qui n'ont pas fait le défilé, et des personnes qui font le défilé aujourd'hui qui ne font pas non plus le concours de la semaine prochaine. Donc il y a une partie des gens qui défilent aujourd'hui qui seront en concours la semaine prochaine. Et pour le reste, après, je sais pas, j'attends d'autres inscriptions, exactement. Ouais.
Les personnes comme ça qui font du cosplay, est-ce que vous diriez que c'est assez diversifié ?
Généralement, ce sont surtout des personnes jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, la plupart du temps.
Et il y a combien de personnes du coup qui viennent pour défiler, souvent ?
En moyenne ?
Oui, en moyenne.
En moyenne, on a généralement autour de 10 à 12 prestations, donc ça peut être des groupes ou des personnes seules.
Défilé, c'est sur des cosplays avec des thèmes particuliers ou c'est très libre ?
Alors c'est libre, on peut aller du Disney à la Japanime, les mangas, les films, les comics, il n'y a pas de limite.
On fait un cosplay en famille, donc on a notre fille qui fait Luffy, moi en ami, et puis
moi en Sanji.
Voilà.
Pour les costumes cosplay, est-ce que vous les achetez ou est-ce que vous les faites vous-même ?
Moitié-moitié. J'en ai acheté une partie, j'en ai fabriqué certains accessoires. Notamment, ben là, le logo de Nami, il n'est pas tout à fait fini. ce que je peux faire, je le fais, et ce que je peux pas faire, ben, je l'achète. Par le manque de temps aussi, comme on travaille, c'est pas forcément évident.
Est-ce que vous participez souvent à des défilés pour les cosplays?
Vous, c'est famille, la première fois, en famille, c'est la première fois.
Voilà. On en a fait un peu à la Japan Expo l'an dernier, ouais, en famille. Voilà,
Faire de défilé à proprement parler, en fait, ouais, on va participer au concours. Après, moi, j'en ai fait deux, mais il y a une vingtaine d'années. Donc, c'est pas pareil.
Au début.
Quand ça commence à arriver en France, oui.
Voilà.
Comment vous avez entendu parler de ce défilé ?
Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, notamment. Puis par une amie aussi, qui m'en a parlé aussi.
Du coup, vous connaissiez ou pas cette association-là ?
Absolument pas, non.
On a découvert par hasard ce matin en venant.
Est-ce que vous avez pour projet comme ça de participer à d'autres défilés de cosplay ?
Non, pas forcément. Parce que après, on fait ça juste pour s'amuser, en fait, pour les
découvrir un peu aussi. Non, du coup, pas forcément découvrir, mais passer un bon moment.
Cet été, on a prévu d'aller à la Japan Expo en famille, donc on a prévu de se déguiser, mais voilà, c'est juste pour nous, c'est pas pour participer à quelque chose.
Donc moi je m'appelle Serena et j'incarne Mercredi Adams.
Moi je m'appelle Pauline, j'ai le pseudo Phoebe sur les réseaux. Et moi c'est Utao de Genshin Impact.
Moi je m'appelle Lizzie, mon pseudo c'est Lizzie Koss et j'incarne Bill Crypto de Gravity Falls.
Moi je m'appelle Candice et j'incarne le personnage de Hatsune Miku, une chanteuse virtuelle.
Moi je m'appelle Amelia et j'incarne le personnage d'Hatsune Miku mais dans un module version Sakura.
Moi je m'appelle Lou sur les réseaux, je m'appelle Amoe et là j'incarne Aqua de Oshinoko.
Moi je m'appelle Melinda, mon pseudo c'est Anae et je cosplay Kayano Kaede.
Merci, merci. Vous venez souvent à des défilés comme ça ?
Alors moi personnellement je fais beaucoup de cosplay, j'ai commencé au collège mais je m'y suis vraiment mise fin lycée. Et je viens dans les événements comme ça dès qu'il y en a un, donc là c'était super bien. Je fais partie de l'association Picardie Cosplay donc je me suis dit pourquoi pas venir et aider l'asso du coup.
Alors moi je viens assez souvent aux conventions, majoritairement celle du Nord vu que j'habite dans le Nord. Je fais aussi partie de Picardie Cosplay, donc j'essaye d'être là à chaque fois qu'ils font une convention où on est là.
Moi, pour mon cas, j'ai commencé début seconde et c'est vraiment maintenant en fait, que je commence à faire de plus en plus de conventions cosplay et plus de cosplay tout simplement.
Moi c'est pareil, j'en faisais un petit peu au collège mais j'ai vraiment commencé au lycée et ça me passionne parce que je l'ai fait moi-même la plupart du temps. Franchement c'est super, j'essaie d'y aller au maximum de conventions, surtout là c'est super parce que c'est libre d'accès, c'est gratuit.
Alors moi je fais du cosplay, ça fait depuis mes 12 ans, donc ça fait 9 ans que j'en fais. Mais j'ai commencé en fait justement en voyant ça dans mon établissement scolaire.
Est-ce que les costumes vous les faites vous-même ou pour la plupart ou vous les achetez quelque part ?
Certains.
50-50 ?
50-50, ouais.
Oui, voilà. 50-50.
Là, pour le coup, le cosplay que j'ai actuellement, là, il est acheté. Mais j'ai fait un kimono fait main, j'ai déjà fait un maillot de bain aussi. Ça dépend des cosplays, c'est vraiment 50-50. Voilà.
D'accord. Et vous avez des cosplays, c'est sur des thèmes ou est-ce que vous faites sur plusieurs thèmes, par exemple des personnages Disney
Principalement, c'est vrai que je fais sur les mangas, mais par exemple, dernièrement, j'ai réalisé le cosplay d'une princesse Disney, effectivement.
Moi, pareil, c'est assez varié. Là, j'ai fait dans le manga, mais j'en ai aussi dans les jeux vidéo, comme du Final Fantasy, etc. C'est vraiment diversifié.
Alors moi, je le fais beaucoup sur les jeux vidéo, majoritairement sur Five Nights at Freddy's, mais après, je fais aussi beaucoup sur les dessins animés, un peu sur les mangas, mais pas beaucoup. Mais c'est vraiment jeux vidéo et dessins animés.
Moi pareil, je fais beaucoup de jeux vidéo. Je l'ai remarqué très récemment que je faisais beaucoup de jeux vidéo. J'ai fait du Nier Automata, du Genshin, pas mal de jeux en fait. Et j'ai commencé beaucoup avec anime et manga. Et il m'arrive aussi de faire des persos de fantasy, donc dans des romans, etc. Et voilà.
Comment vous définissez un peu le cosplay ?
Pour moi, c'est une forme d'art parce que ça en regroupe plein. T'as la coiffure, donc les perruques, t'as la couture, t'as aussi une forme théâtrale parce que tu dois incarner le personnage. Pendant les concours, il y a une prestation, donc tu peux aussi apprendre la danse, etc. Donc ça regroupe plein de disciplines, donc le théâtre, la coiffure, la danse, le maquillage aussi, ça c'est super important. Et c'est tout. Pour moi, c'est vrai, c'est une forme d'art.
Moi, pour moi, en fait, c'est juste... Ça permet de rencontrer de nouvelles personnes avec qui on a une passion commune ou plusieurs, certainement. Des fois on fait les mêmes personnages, on se rencontre et on a plein de points communs, c'est des amis, genre c'est pour rencontrer des gens, c'est super, c'est majoritairement une très bonne communauté.
Comment vous est venue cette passion pour le cosplay?
Moi personnellement c'était pendant le confinement et je traînais beaucoup sur TikTok et j'aimais déjà bien me déguiser depuis un moment, mais là après je voyais le cosplay, ça a vraiment explosé dans cette période et puis ça m'a lancé.
Moi du coup c'était il y a quelques années, comme je l'ai dit avant, j'ai vu une personne qui est venue au collège totalement cosplayée, donc c'était vraiment la période où les gens étaient encore sceptiques sur le cosplay, ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça passionnant et je m'y suis mis petit à petit. Puis j'ai commencé à faire des conventions et vraiment à me plonger dans le truc.
Alors moi personnellement, je lisais un petit manga qui s'appelle Chi, une vie de chat, quand j'étais petite et du coup en primaire. Et j'ai été à une de mes premières conventions, c'est une Japan Expo peut-être 2017-2018, enfin ça remonte un peu. Et j'ai vu des gens déguisés comme ça et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre pourquoi ils font ça? Pourquoi ils agissent comme ça? Et je me suis renseignée et je me suis dit pourquoi pas tester, et au final ça m'a vraiment plu et depuis je fais ça.
Est-ce que vous avez prévu d'aller, enfin j'imagine que oui, du coup vous aimez ça, d'aller à d'autres conventions?
Oui.
Vous avez au programme plutôt quoi?
Il y a la Japan Manga Wave du coup en juin et novembre à Amiens. Il y a la Japan Expo aussi, j'aimerais bien aller. Peut-être la Paris Manga en fin d'année aussi.
Moi du coup je fais la Mangaras le mois prochain, les Geek Days à Lille et peut-être la Japan Expo.
Ce sont des conventions du même type qu'ici?
C'est ça. C'est un peu plus grand. C'est plus grand.
En fait, les grandes conventions comme ça, c'est vraiment dans des bâtiments faits exprès, comme à Mégacité à Amiens. Totalement réservé pour tout ce qui est animé, jeux vidéo, manga, cosplay, etc. Là, c'est vraiment un centre commercial et on a juste un stand dessus et c'est tout. Mais voilà.
Alors, il y en a certaines d'entre vous, du coup, qui sont dans l'association en tant que bénévole. En quoi consiste votre rôle?
Alors, de mon point de vue, on n'a pas de rôle prédéfini. On est vraiment toutes bénévoles également. Moi, personnellement, je m'occupe des réseaux sociaux, donc plus Instagram. Tous les posts Instagram, c'est fait par moi et coécrit par Yann, évidemment. Et j'ai aussi fait les cartes de visite. J'ai fait le design, je les ai imprimées, je les ai commandées, on les a reçues. Et j'ai aussi fait les tableaux qu'on peut voir là-bas qui présentent chaque membre de l'association du coup. Et moi je m'occupe surtout des réseaux et du tout ce qui est graphique.
Moi personnellement je m'occupe principalement du TikTok. Bon, pour l'instant il n'y a encore rien de posté parce qu'on l'a créé très récemment. Mais après sinon je suis bénévole comme tous. Après on n'a pas spécialement de rôle défini pendant une convention ou un événement.
Moi je m'occupe de rien en particulier, je suis là, c'est bien. Non mais j'essaie de venir le plus souvent possible pour pouvoir le plus aider l'association. Après quand il manque des choses, j'essaie de les ramener. Des fois,
t'as décoré le stand?
Oui.
Ouais.
Oui.
En novembre, je pense.
Oui.
Elle a ramené des cosplays à elle pour décorer le stand.
Ouais.
Et on a toutes les trois fait jury du concours cosplay en novembre 2023.
En fait, on avait organisé le défilé du concours cosplay de la Japan Manga Wave, de la première Japan Manga Wave à Amiens en novembre 2022. L'an dernier, c'est AMF Cosplay qui s'en était chargé en novembre. Et là, j'ai été recontacté par l'organisateur pour organiser le défilé du concours cosplay de la Japan Manga Wave de juin et de la Japan Manga Wave de novembre de cette année 2024. Par contre, la différence des concours qui se déroulent à Mégacité par rapport à ceux qu'on organise nous dans d'autres conventions, c'est qu'à la Japan Manga Wave, il y aura un jury. Une partie des membres du jury ne seront pas forcément de l'asso, mais seront des cosplayers très connus. Au mois de juin, il y aura Opalescence, Flower Lantern, qui feront partie du jury lors du concours du mois de juin à Mégacité.
Donc tu m'as parlé d'autres associations de cosplay. Est-ce qu'il vous arrive de faire des événements, de produire ensemble des événements de cosplay?
Alors AMF Cosplay, en fait, on organisait un concours, enfin le concours, donc deux concours en novembre. Mais nous, à côté de ça, dans la Manga Wave également, on a organisé le concours annuel d'Amiens 2023, puisque Atwadjo n'existait plus, on leur a demandé s'ils étaient d'accord, et du coup, on a pu organiser également un concours de cosplay, mais avec notre jury, notre propre jury.
Alors, comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous allez souvent à des défilés comme ça?
Oui, je suis déjà allée à Mégacité. C'est mes enfants qui organisent ça, quoi. C'est mon fils qui organise ça avec ma belle-fille. Et là, j'ai trouvé que c'était très bien. Ils ont bien organisé ça et tout. je suis là et j'ai mes petits-enfants à m'occuper en même temps. Donc voilà, c'est en même temps. Joindre ça, ce moment agréable, à être avec ma famille, quoi, voilà. Enfin, aujourd'hui, c'était pas comme à Mégacité avec beaucoup plus de participants et tout ça, mais c'était déjà très très bien.
Justement, il y a eu quoi la Mégacité, du coup ?
La Mégacité, c'est le concours de cosplay. C'est-à-dire, tous les personnages se déguisent, chacun leur spécialité. Donc, ils font un petit sketch, quoi, mais très court. Moi, je connais pas trop, mais... Et puis, après, la suite, il y a un concours de cosplay, donc il y a des lots à gagner pour les participants. Donc, non, c'est très bien, puis c'est mignon, quoi, à voir et tout ça. Bah oui, c'est sûr.
Tout d'abord, je suis la femme du président de l'asso, et bah, de toute façon, j'ai toujours aimé le cosplay, et du coup, monsieur, je l'ai connu un peu pour ça. Après, l'univers, plutôt Disney, mais après, les jeux vidéo aussi, j'aime bien. Et du coup, bah, je me cosplay, mais après, je fais pas du cosplay professionnel, disons.
Comment est-ce que toi, tu définis le cosplay ?
C'est un personnage que tu as bien aimé dans une série, dans un jeu vidéo, et que tu as envie d'incarner, en fait.
Comme costume, là, tu as un or,
oui,
un Reine des Neiges, et t'aimes bien aussi quoi comme costume ?
Du coup, j'ai aussi la fée Clochette, Sailor Moon, en plus ancien. Après, j'ai du Shenli, j'ai aussi du Rebelle, beaucoup du Disney Princesse. Et puis, j'essaye d'adapter avec la Wings. Voilà.
Est-ce que vous considérez que le cosplay, c'est une tendance ou...
C'est une tendance qui arrive de plus en plus dans la Picardie, oui. Après, ça a toujours existé. Après, il y en a, ils sont toujours fans depuis les débuts. Et oui, après, ça devient de plus en plus une tendance. Et on essaye de faire changer les gens, de dire que le cosplay, ce n'est pas juste pour les enfants, en fait. C'est aussi pour les adultes.
Et du coup, ton rôle au sein de l'association, c'est de promouvoir un peu le cosplay.
Oui, c'est
et
ça.
Et de gérer aussi.
Après, j'aime bien les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que je suis beaucoup à publier sur les réseaux sociaux, faire de la pub. On tient un TikTok avec les filles, voilà, sur Picardie Cosplay qu'on vient de commencer.
Qu'est-ce que vous faites aussi dans l'association, à part des défilés et concours ?
Là, aujourd'hui, il y a eu le concours de dessin qui a très bien marché, pour les enfants ou pour tout âge aussi. On a un petit référence Picos, qui est le lapin de référence, voilà, qui est là, et en fait, après, on le costumise comme on veut. C'est libre choix, et après, il y a un petit concours, parce que on donne... On voit le plus beau dessin, mais par rapport à l'âge des gens, en fait. Donc, du coup, souvent, on est très généreux sur les cadeaux.
Oui, c'est quoi un peu comme cadeau, comme lot, comme ça, que vous proposez dans le cadre de concours ?
Alors, du coup, c'est du bénévole, donc c'est soit nous, de nos propres gré, qui trouvons les cadeaux par nous-mêmes, ou alors on demande aussi au magasin si c'est possible de participer. On a des DVD, des mangas, des figurines, vraiment de tout.
Est-ce que vous avez prévu d'autres événements à venir ?
Alors, le mois prochain, nous serons présents à la Japan Manga Wave. Donc il y a une Manga Wave en novembre, mais là il y en aura une au mois de juin. Et pour le mois de juin et le mois de novembre de cette année, en tous les cas, c'est nous qui reprenons l'organisation des concours organisés par le salon.
Vous venez d'écouter un reportage consacré à l'association Picardie Cosplay. Pour conclure cette émission, nous vous proposons d'écouter le cinquième et dernier épisode de la série consacrée à l'intégration par le sport, réalisée par Manon Chamorin-Desmarais, étudiante en Master 2 de journalisme à Amiens.
Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous clôturons notre série Accessibilité et insertion à travers le sport avec le cinquième et dernier épisode. Après avoir entendu le témoignage de Lucie Letiec, ancienne arbitre de football, nous poursuivons avec l'analyse qu'elle a pu en tirer. En 2018, la jeune femme rédige sa thèse. Cette dernière porte sur le poste d'arbitre, mais surtout sur la place des femmes dans des sports masculins. Avec son expérience personnelle comme bagage principal, celle qui est aujourd'hui sociologue tire les conclusions du poste d'arbitre féminin et continue sa réflexion sur l'insertion des femmes et l'égalité des sexes dans le sport. Pour elle, le constat est clair. Les femmes sont relayées aux postes moins prestigieux.
Souvent dit dans mes travaux que finalement, on concède à laisser aux femmes les petits niveaux, voilà, les divisions qui ne sont pas très importantes, là où on a besoin de beaucoup d'arbitres aussi. Et que dès que ça devient un peu sérieux, le haut niveau régional déjà, et puis le niveau fédéral, là, il y a de moins en moins de femmes. Je pense qu'il y a ça aussi. Dès qu'il y a des enjeux, dès que c'est un peu plus prestigieux, on a tendance à discriminer, en fait.
Lors de ses recherches, l'ancien arbitre constate que le jugement sur ce problème est faussé. Pour la plupart, peu de noms viennent à l'esprit quand on parle d'arbitre féminin. Un seul peut se frayer une place dans la mémoire, donnant ainsi une réponse à l'affirmation « peu de femmes occupent la place d'arbitre de football ».
Il se réfugie derrière cette égérie, donc cette femme arbitre qui est officier en Ligue 1, Stéphanie Frappard, en disant, comme un signe finalement de bonne santé de l'arbitrage féminin, en disant « mais regardez, elle a réussi à officier en Ligue 1, donc tout va bien dans l'arbitrage féminin ». Mais bien sûr, quand on creuse, on se rend compte qu'elle est seule, il n'y a personne derrière elle. Et que donc, quand elle va arrêter, puisque là, elle a une quarantaine d'années, on ne va pas revoir une femme en Ligue 1 de sitôt. Quoi. Il faudra attendre presque, moi je dis 20 ans, s'ils décident à miser à nouveau sur une femme. Parce que c'est exactement ce qui s'était passé en 1996, quand Nelly Viennot avait officié en Ligue 1 à la touche, arbitre assistante. Donc c'était en 96 et Stéphanie Frappard est arrivée 20 ans après. Donc voilà, ils aiment bien miser sur une femme et au final derrière il n'y a rien, ça ne suit pas quoi.
La cause de cette inégalité, des décisions parfois contradictoires. Alors pourtant bien lancée avec un poste dans une équipe de sexe opposé, la sociologue a vu le cours de sa carrière d'arbitre bouleversé par une intégration dans une équipe féminine. Les femmes réunies entre elles d'un côté et les hommes de l'autre, le progrès semble avoir été stoppé. Une question se pose alors. Pourrait-on un jour voir un sport mixte mélangeant à la fois les hommes et les femmes ?
Une politique de non-mixité en fait, et qui débute de plus en plus tôt puisque maintenant ils mettent en place des formations en fait juste pour les femmes arbitres. Donc les femmes arbitres et les hommes arbitres ne sont pas formés en même temps. Il y a carrément des formations spécifiques. Donc derrière ça, et c'est la deuxième chose en fait, qui interroge, c'est qu'ils considèrent que les femmes n'arbitrent pas de la même manière que les hommes et qu'elles méritent donc une formation à part entière. Donc soit parce qu'elles officient des matchs qui sont moins prestigieux, moins importants, donc elles ont peut-être besoin de moins de compétences, est-ce que c'est ça qui est sous-entendu ? Ou alors ce qui est sous-entendu, c'est qu'elles ont d'autres qualités que les hommes, je sais pas, plus de la douceur, elles sont à l'écoute des joueurs, elles arrivent à les calmer, vous voyez ? Donc on joue aussi sur les stéréotypes féminins. Et comme si finalement une femme ne pouvait pas avoir de l'autorité, du courage, etc. Quoi. Dans les discours en tout cas, on a l'impression qu'ils considèrent qu'un arbitre, voilà, c'est un arbitre avant tout et qu'ils ne voient pas le genre de l'arbitre. Et finalement, on s'aperçoit que dans les décisions qui sont prises, non. On considère avant tout que ce sont des femmes avant d'être des arbitres. Quoi. La mixité, pourquoi pas ? Dans le football, je ne pense pas que ça va arriver prochainement, mais il y a des sports qui sont, des disciplines qui sont mixtes. Et il y a des travaux qui sont menés par des sociologues là-dessus, où en fait on montre que même dans ces sports mixtes, à nouveau, il y a une division, on va dire, entre les sexes dans la pratique. Je ne sais plus dans quelle... C'est les nouvelles disciplines un peu innovantes, là, avec un énorme ballon, ou je ne sais plus exactement. En gros, on montrait que les femmes occupaient des postes plutôt en défense et moins en attaque, ou alors quand il fallait désigner un joueur pour un geste un peu décisif, du type, c'est pas un pénalty parce que c'est pas au football, mais ce genre de geste un petit peu fatidique, à nouveau c'était un homme qu'on choisissait et pas une femme. Pareil au niveau du temps de jeu, ils avaient mesuré et c'était à nouveau les femmes qui jouaient moins que les hommes. Dès qu'il fallait faire des remplacements, c'était plus les femmes qui étaient remplacées. Donc finalement, la mixité ne résout pas non plus tous les problèmes liés au genre, en fait. Souvent, les différences entre femmes et hommes du point de vue, on va dire, biologique, physiologique, elles sont analysées justement à partir de ce point de vue, en fait, de nos différences anatomiques, etc. Et on oublie la dimension sociale, la construction sociale derrière ces différences. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à une femme, par exemple le football, on ne peut pas demander à une femme aujourd'hui d'avoir le même niveau technique et physique qu'un homme, puisque le football féminin a été interdit pendant des décennies. Enfin, la FFF a reconnu le football féminin en 1970. Donc on ne peut pas demander à une femme institutionnellement, en fait, il y a eu déjà un retard. Donc on peut aussi expliquer ces différences de niveau et ces différences techniques, physiques, par ce retard de prise en charge fédérale. Donc en fait, il faudra avoir une double lecture. Évidemment qu'il y a sans doute des différences biologiques, physiologiques, mais il y a aussi cette discrimination institutionnelle que souvent on oublie en fait.
En bref, des efforts ont déjà été réalisés pour essayer d'inclure le maximum de personnes dans le sport et leur permettre de développer leur confiance en soi, leur capacité, mais aussi leur sociabilité. Cependant, dans certaines disciplines et pour certaines catégories de personnes, le chemin est encore long. Bien que des avancées ont eu lieu, d'autres efforts sont encore attendus par ceux directement concernés. Comme le disait l'historien Pierre de Coubertin, le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. C'est la fin de notre série sur l'accessibilité et l'insertion à travers le sport. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau rendez-vous sportif. Fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ。顔を蹴られた地球が起こって、火山を爆発させる。お尻